Salut Benjamin, comment vas-tu?
Eh ben ça va très bien. Et toi, comment vas-tu?
Bah écoute, nickel. Il fait super beau, reprise de taf dans la tranquillité et dans la sérénité, donc nickel. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs, s'il te plaît?
Du coup, moi je suis Benjamin, le chanteur du groupe Bebly et guitariste, tout simplement.
Le groupe Bebly, justement, le nom, il est venu de quoi?
Eh ben en fait, quand j'ai créé le projet Bebly, c'est que j'étais dans un groupe auparavant. Je cherchais un nom pour le groupe et le nom de Bebly, c'est juste la contraction de mon prénom et de mon nom de famille. Du coup, voilà, c'est tout con, mais c'est comme ça.
D'accord. Et donc là, vous vous êtes plutôt orienté vers du rock. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce style musical plutôt qu'un autre?
C'est tout bonnement ce qu'on a écouté depuis qu'on est gamin, quoi. Moi, j'ai plutôt une orientation chanson et puis rock. Les autres sont plutôt métal et rock. Donc, on est un peu là-dedans. On baigne là-dedans depuis qu'on est ado.
Donc, d'ailleurs, tu dis les autres. Donc, il y a Guillaume à la basse et au chœur. Il y a toi, Benjamin, guitare et chant, comme tu disais tout à l'heure. Et Fabien à la batterie et au chœur. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique?
Pour moi, j'ai commencé la guitare assez tard. Ça fait maintenant une vingtaine d'années, ouais, que je fais ça. Je suis âgé maintenant.
Non, on commence à vieillir lorsqu'on arrête d'apprendre.
C'est ça. Bon, bah, on va jamais vieillir. C'est bien.
Par rapport aux autres, tu sais pas forcément depuis combien de temps ils font de la musique?
Si, bah, c'est à peu près dans le même créneau, sauf que par exemple, Fabien, qui était à la batterie, a un cursus beaucoup plus professionnel, il a des diplômes de batterie, Agostini, etc., etc. Et moi et Guillaume, on est beaucoup plus autodidactes. On fait un peu ce qu'on aime sans avoir de base concrète, mais au bout d'un moment, on sait de quoi on parle. Voilà.
Très bien. Et vous avez appris avec des tablatures sur Internet?
Ouais, en gros, c'est ça. Moi, j'ai appris avec Guitar Part, tu vois, les trucs, les morceaux que j'aime bien. Ah, tiens, je vais faire ça, bisous. Puis c'est la débrouille, quoi.
Ouais, donc pas de solfège forcément, et c'est vraiment qu'à l'oreille et à la partie.
C'est ça, autodidacte à fond.
C'est ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'au moins t'as que toi à remercier, donc ça fait plaisir.
Oui, et puis c'est un peu l'intérêt de la musique quand on la fait un peu de façon, je dirais, punk, tu vois, un peu facile. Quand on dit punk, c'est un peu péjoratif des fois, mais moi je trouve ça plutôt cool, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, en jouant trois accords, s'il sait chanter dessus, peut arriver à sortir un petit truc sympa et se faire plaisir, hein. Même si c'est pas connu, même si rien, tu peux avoir une émotion.
Pour présenter musicalement le groupe Bebly, quoi de mieux que de s'écouter le facteur chance, paru sur leur dernier album Uldo en février.
Si ça me surcharge de plaisir.
C'était le facteur chance de Bebly. On reprend l'interview.
En parlant de chant, toi, quand tu fais l'écriture des paroles, qu'est-ce qui t'amène à écrire ces paroles? C'est quoi que tes sources d'inspiration lorsque tu fais de l'écriture?
Des fois, j'ai des ressentis personnels, puis je brode autour, je me fais happer par la rime et je pars sur un autre sujet, en fait. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Ça part toujours d'une petite pensée où tu croises un événement. Enfin, c'est souvent, pour tout le monde, c'est un peu la même chose, je pense. Et puis après, ça s'écarte du sujet de ton nombril et puis ça amène vers autre chose. Et puis tu dis, ah, c'est pas mal, je me suis fait happer vers ce côté-là, pourquoi pas, c'est intéressant.
Et donc, dès que t'as une pensée comme ça, tu le mets dans un petit carnet. Genre, par exemple, tu vas dans la rue, tu fais, ah, tiens, j'ai pensé à ça, tu vas la noter ou tu lui maintiens tout dans ta tête, tu poses ça sur papier ou même c'est carrément d'une traite, tu vas écrire?
Ça dépend des années, des morceaux, mais par exemple, en ce moment, je mets rien de côté, j'ai des trucs dans la tête et puis on verra bien comment ça va se décanter. Puis il y a des fois, je mets des notes sur mon portable ou alors sur le dictaphone. Enfin, voilà, ça part vraiment de rien et puis des fois, tu tombes sur des trucs qui n'arrivent à rien. Puis des fois, tu fais, ah, bah, ça, c'est plutôt pas mal, on va le présenter au gars et puis on va voir comment ça se passe.
Est-ce que tu as des fois eu des pannes d'inspiration ou du moins que tu avais du mal à trouver quelque chose que tu trouvais cohérent par rapport au groupe?
Ça arrive souvent, en fait, t'es souvent planté et puis des fois, ça repart. Moi, je cherche pas trop à comprendre. Je fais en fonction de ce qui arrive. Je sais que j'ai quelques petites chansons d'avance. Donc, du coup, ça me permet un taux d'absorption. C'est-à-dire, si j'ai rien à proposer, bah, je sais que j'ai ma petite ressource, des petits trucs d'avance de côté. Et puis voilà, ça permet d'avoir le coussin, quoi.
Pour regagner l'inspiration, qu'est-ce que tu fais, toi?
Il n'y a pas de formule miracle. Il y a des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Je cherche pas. Là, par exemple, pendant le confinement, puisqu'on est en plein dedans, j'avais énormément de temps. Je pouvais faire ce que je voulais et j'ai rien pondu. Alors que des fois, je vais être rushé par le boulot. Puis je vais faire 3-4 morceaux. En fait, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je cherche plus à comprendre. Je me laisse aller.
Voilà. Tu ne mets pas d'impératif, ça sort quand ça sort.
Exactement, parce qu'en fait, c'est un plaisir, c'est pas un boulot, donc faut que ça reste. C'est ça le principe de la musique pour moi dans ma tête. C'est plaisir, éviter les contraintes, tout en essayant d'être le maximum pro possible, quoi.
Vous voulez vous poser une question concernant votre setup? Vous utilisez quel setup pour composer?
Bah, le setup pour composer, c'est moi et ma guitare. Et puis après, du coup, je propose le morceau aux gars, et puis ils l'interprètent à leur façon. Donc après, ils ont libre cours d'interprétation, puis le morceau, il peut partir n'importe comment. Je mets vraiment pas de frein, parce que j'aime bien m'enrichir de leurs idées, de ce qu'ils lisent, de ce que j'ai fait, quoi. C'est pas très clair ce que je te dis, mais...
Donc en fait, chacun fait sa partie, vous ne retouchez pas forcément la partie de l'autre. C'est-à-dire qu'il fait sa partie et vous la respectez telle qu'elle.
Exactement. Il y a des fois Fabien qu'on fait chier un petit peu, qui a la batterie, qui a tendance à en mettre des kilos parce que forcément, il a une technique de fou. Donc on lui dit, calme-toi, bijou. Sinon, il y a que lui qu'on frustre un petit peu. D'accord. Des fois, on est méchant. Quand on sait trop en faire, on veut trop en faire. Et des fois, c'est bien de faire un petit peu... Des fois, on lui donne quartier libre et puis il sait pas quoi faire, justement. Ils sont cons. Alors c'est marrant aussi, ça.
Donc en fait, vous le frustrez tout le temps?
Non, on le frustre pas. Bah, ça se trouve, on se frustre tout le temps. Merde, putain.
Ouais, c'est ça.
Non, mais il a plein d'autres projets, il fait plein de trucs. Enfin, je m'inquiète pas pour lui. C'est vrai qu'il a tendance vraiment à tartiner. Des fois, on regarde comme ça, on fait, ah ouais, c'est super bien, mais il y a de l'information là, en fait.
Je sais pas si tu pourras rentrer sur le disque.
Bah, je sais pas si déjà on va arriver à le rentrer avec toi, parce que ce que tu fais techniquement, c'est chaud. Et après, sur le disque, c'est une autre paire de manches, effectivement. Mais c'est agréable de jouer avec un virtuose, mais les virtuoses, ils ont toujours tendance à, ah vache, bah, qu'est-ce qu'ils envoient?
C'est un problème, mais qui n'est pas vraiment un problème finalement.
Non, c'est absolument pas un problème. Moi, je suis toujours assez béat de ce qu'il fait, de ce qu'ils font en général, les deux là. Ma basse batte, c'est du béton.
Très bien. Tu les appelles tes béquilles, c'est ça?
Ouais, parce que ça me tient droit dans le tempo, si tu vois ce que je veux dire. Je suis un peu l'électron, un peu. Et puis eux, ils me. Ah, ils bougent pas de là, quoi.
D'ailleurs, en reparlant donc, d'albums, donc votre premier LP, L'autre, il s'égare, date de mai 2009. Mais donc la fondation du groupe, d'après les informations que j'ai pu glaner, remonte à 2008, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Alors en fait, les chansons du LP, ils ont été enregistrées en 2007. À l'époque, c'est moi qui ai fait les guitares, les basses, et puis il y avait un autre batteur qui a fait tout le truc. Et puis en fait, on a refait des re-re de basses en 2009 et Fabien malheureusement n'a pas pu refaire les batteries parce qu'on n'avait pas assez de sous à l'époque. Du coup, voilà, en gros, le groupe, c'est lui qui joue en live à l'époque. Au moment où c'est sorti, c'est déjà lui qui joue en live. Et les basses, c'était déjà Guillaume qui les avait refaites dessus. C'était plus mes basses toutes pourries qui étaient dessus.
Donc en fait, votre config actuelle date de 2009?
2008, puisque, 2008. Ouais, puisque j'ai enregistré en 2007 et eux, ils sont arrivés en 2008 et il a commencé à refaire des basses dessus. Et puis voilà, on devait faire les batteries. Puis en fait, c'était beaucoup trop long. Il aurait fallu tout refaire. Et puis on perdait le dynamisme.
Donc vous avez préféré passer au prochain album plutôt que de refaire celui-là?
C'est ça, exactement.
Et vous, votre processus créatif, ça se passe comment? Vous le faites ensemble? Vous apportez, donc comme tu disais tout à l'heure, chacun votre partie, ou vous êtes quand même un minimum ensemble lorsque vous composez?
Moi, je leur propose un couplet, un refrain en répète, comme ça, avec la guitare brute, et puis on avance là-dessus, puis on fait tous les morceaux comme ça. C'est vraiment en répète ensemble, il n'y a pas d'échange de fichiers. Peut-être que là, ça va changer avec
le confinement,
ces histoires, ouais, de confinement ou pas. Il va falloir que je me mette un peu à l'informatique, je ne sais pas trop quoi, mais bon, c'est une autre paire de manches, mais voilà, pourquoi pas.
Bah, écoute, le confinement, en tout cas, apporte des techniques qu'on n'avait pas forcément auparavant. Voilà, c'est la vie. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est particulier, tous ces lives que je vois là, c'est un peu bizarre.
On va se faire une petite interlude musicale avec Uldo, sorti sur leur dernier album éponyme.
Moi, ce que j'aime dans mes blessures, c'est qu'elle se disperse en ta présence comme une lumière dans l'ouverture. Je ne partirai plus en avance. Des fois je merde, des fois j'assure. Souvent je cultive mon impatience, mais je faisais que longer les murs. Je longe les murs en ton absence. Je longe les murs en ton absence. Je longe les murs en ton absence. Moi, ce que j'aime dans mes blessures, c'est qu'elles se dispersent en ta présence. Et mes pensées ont fière allure, et je ne trébuche plus quand je flanche. Et ce que j'aime dans tes ratures, c'est qu'elles bouleversent mes pages blanches. Moi je faisais que longer les murs. Je longe les murs en ton absence. 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 Je longe les murs.
Bébli, Uldo, on repart sur l'interview.
C'est un truc qui vous tente ou pas ça d'ailleurs, le live à la maison?
Eh ben écoute, moi personnellement non, pas du tout. Je me suis amusé à enregistrer quelques petits trucs, une petite reprise notamment qui traîne sur l'Instagram, des choses comme ça. Mais je mets pas en live, je fais des trucs très simples. Mais c'est vrai que le format live avec une guitare sèche pour un groupe qui envoie du pâté, c'est un peu bâcher notre travail. Enfin, si on peut appeler ça du travail, c'est un peu esquinter ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on essaie de faire au mieux. On a enregistré dans des gros studios et puis du coup on se retrouve là sur un live Facebook où tout le monde s'en fout en fait. On n'a pas énormément non plus de fans. Grosse demande, on se serait peut-être bougé le cul, mais là, faire ça pour un groupe qui n'est pas très reconnu, où va y avoir tes parents devant le feu. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça va intéresser une centaine de personnes, et puis nous, on va avoir un résultat, on va écouter ça, on va faire oh là là, mon dieu, quelle catastrophe. Et ces histoires de son, quand t'es un petit peu amoureux du son et que tu passes par ce genre de format, ça se trouve, ça va peut-être évoluer, on est peut-être trop vieille école, mais.
Bah, disons que si l'année 2020 c'est mort pour les concerts, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va vous chatouiller de jouer devant un public, même s'il est virtuel.
Exactement, bon, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas, mais en tout cas, dans ma démarche, moi j'y ai pas mal pensé et je suis pas contre faire quelques petites vidéos un petit peu soignées ou moi tout seul avec une guitare ou comme ça, mais faire un basse batterie qui passe derrière un écran, mon dieu.
Tu fais une conférence Zoom avec chacun qui joue de son côté avec un son pris sur l'ordinateur, je t'assure que ça va faire une qualité ma. Donc moi je vous avais découvert avec la chanson Le Facteur Chance parue sur votre dernier EP, donc Uldo, sorti en février. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, il est tout frais celui-là, on l'a enregistré en août l'année dernière à Bruxelles, au studio ICP, les mythiques studios ICP. On a enregistré tout ça en trois jours avec l'ingé son qui travaille régulièrement avec Damien 16 qui s'appelle Sylvain Carpentier. Donc voilà, c'est un très bon ami à moi que je connais depuis maintenant c'est 2004, donc ça fait 16 ans. On se côtoie pas mal, on adore comment il travaille. Puis à chaque fois, effectivement, il nous trouve des studios un peu cool comme ça. Le dernier EP, on l'avait fait au Black Box à Angers. Je sais pas si tu connais
du tout.
Bon, pareil, c'est des studios, c'est des vieux studios des années 90, tout analogique avec des grosses consoles. Enfin, on aime bien ce genre de délire. Donc effectivement, on est servi avec lui. Il nous réserve ce genre de trucs. On est très très contents.
Et après, par contre, en termes de frais, ça doit quand même cogner un petit peu des studios comme ça pour 3 jours.
Ouais, mais on se paye pas grand chose. C'est nos vacances, quoi, tu vois. On n'est pas parti au Mexique, mais on est parti à Bruxelles et on a profité de la piscine du studio. Waouh. Parce qu'il y a une piscine dans le studio.
Tu peux pas jouer de la guitare dedans, mais ça fait quand même plaisir.
Et c'est ça.
Ah, c'est trop bien. Là, vous aviez donc déjà, je présume, une énorme base de prêtes et vous êtes allé donc finaliser tout ça au studio.
Ah bah, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que les morceaux, ils sont prêts, on connaît les tempos, on sait ce qu'on a à faire. Quand on arrive là-bas, on a juste à chercher le son, le placement de micro correct et on enregistre dans la foule. Et c'est pour ça qu'on prend que 3 jours. On n'a pas les moyens de tergiverser là-bas.
C'est vrai que ça coûte des centaines d'euros par jour. Donc, t'as intérêt d'avoir un truc qui est déjà quasiment finalisé, juste à enregistrer le plus vite possible, quoi.
C'est ça. Ce que tu peux te permettre de faire, c'est éventuellement rajouter quelque chose parce que là-bas, t'auras une pièce un peu différente. Enfin, c'est vraiment dans l'artistique. On n'est plus dans la où, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment. Puis après, éventuellement, encore une fois, on se laisse peut-être avoir par le côté, oh putain, ça sonne bien si on essayait de faire ça pour voir si ça enrichit ou pas le morceau. Mais ça s'arrête là, quoi. Donc, effectivement, c'est très frustrant quand t'es au bout des 3 jours et que t'as tout fini. Tu fais, putain, si on avait plus de thunes, on aurait fait 15 morceaux, quoi, tu vois.
C'est quand même un budget qui est vraiment conséquent. Faut faire des choix. Après, en plus, c'est le problème que vous avez aussi derrière votre achat de matériel, peut-être, achat d'ampli, tout ce que tu veux. C'est aussi un coût énorme. C'est un arbitrage. Quand tu mets quelque chose quelque part, tu le mets pas dans d'autres choses.
C'est exactement ça. C'est un choix pour nous qui nous va bien pour le moment. Et voilà, c'est notre petit plaisir. C'est pour ça aussi qu'on fait un EP. C'est que du coup, effectivement, comme on est autoproduit, on a un peu tenu par les sous. Mais on fait quand même les choses. Voilà, on va dans les gros studios de dingo et on fait comme les vrais.
Trop bien. Par contre, après, en termes de revenus, vous avez un travail à côté, je présume, pour pouvoir aussi faire ce que vous aimez vraiment.
Ah bah oui, c'est vraiment un hobby. Hein. C'est un hobby professionnel, mais c'est un hobby.
Et alors, comment vous faites pour faire des lives quand vous avez aussi une longue semaine de travail et que vous devez faire en plus des lives le soir?
On trouve du temps, on négocie une journée. Il y a toujours des moyens de faire des choses. On n'est pas non plus sur des semaines de 50 heures en France. Mais on a de la chance de faire ça. Ouais.
Vous arrivez à faire au moins les deux sans que vous ayez trop de frustration par le fait qu'il y ait quelque chose qui vous prenne trop de temps par rapport à l'autre.
C'est ça. On arrive à trouver l'équilibre. Des fois, on peut pas faire ce qu'on veut, puis on fait pas ce qu'on veut. Des fois, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, faut positiver.
J'ai pu voir aussi que vous aviez votre propre record, donc Bebly Record. Qu'est-ce qui vous a amené à sa création exactement?
En fait, c'est du vent. Il n'y a pas une structure concrète. C'est juste que ça fait bien derrière les disques. On aime bien. On n'avait pas de maison de disques. Personne s'intéresse à nous. Comme on s'autofinance, on s'est dit, bah, on va créer un label avec un petit logo. Mais en fait, c'est du vent.
Après, je fais des recherches. Je tombe directement sur votre site. Et après, ouais, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce que, enfin, en gros, je commence à chercher. Bon, je trouve pas trop de trucs. Je veux quand même poser la question.
Tu fais bien, mais tu sais que moi, j'avais sur la boîte mail, j'avais déjà reçu des démos, des choses comme ça. Donc, c'est rigolo. T'as des groupes qui t'envoient des démos parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Et vous produisez pas? Bah, non, déjà qu'on a pas trop de sous pour nous. Alors, tu sais.
C'est quelque chose qui vous tenterait dans le futur ou pas?
Clairement, moi, si ça marchait bien, comme à l'instar de Last Train, tu vois, ils ont leur label, ils ont leur truc, ils produisent des groupes en voie de développement, ils font leur tournée, c'est vraiment un truc super cool. Hein. À partir du moment où t'as un peu de notoriété, que tu peux te permettre d'avoir ce genre de choses, pourquoi pas aider les autres, surtout que le rock, ça a besoin d'entraide. On est vraiment la partie émergée de l'iceberg musical, et, enfin, dans le sens quantitatif.
Vous, comment vous faites pour faire votre promotion ou du moins augmenter votre notoriété?
Bon, on n'hésite pas à mettre un petit billet sur un attaché de presse, donc c'est hyper important. C'est comme la qualité de la production. Bah, tu vas dans un bon studio, si t'as besoin d'avoir un peu de retombées sur ce que t'as fait, bah, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire que ton studio, tu vas moins rester longtemps parce qu'il faut penser aux sous que tu vas donner au gars ou à la nana qui va s'occuper de toi pour bien défendre le disque derrière.
On va se faire un break musical avec À l'évidence, sorti sur leur dernier album Aldo.
quelques réglages.
C'était Bébli à l'évidence. On enchaîne sur l'interview.
Votre disque, il est sorti au début de la crise du coronavirus. Banco, comment ça a affecté vos ventes et est-ce que au niveau de vos lives, beaucoup de choses annulées ou pas?
Eh ben écoute, on n'avait pas énormément de lives déjà. On avait peut-être des programmations à venir sur la rentrée. On a eu la chance de faire un concert dans le nord de la France à un festival assez important le 7 mars, juste avant la fin de tout, quoi. Enfin, culturellement, ça s'est arrêté là. Du coup, on s'est tous dit bon, c'est une bonne excuse pour dire qu'on n'avait pas trouvé de date en fait. Et c'est à cause du coronavirus, tu vois. C'est compliqué quand t'as un groupe de rock et qu'effectivement t'as pas une structure, un label, un tourneur, d'avoir une régularité de date, même si t'essaies de défendre ton bout de gras comme on dit, les gens ils ont du mal à te faire confiance parce qu'ils se disent bah eux ils vont pas nous ramener des gens. On est toujours sur le même principe, si t'es pas bankable, tu remplis pas quoi.
Sinon tu peux passer dans des scènes de découverte, un petit peu les Inouïs du Printemps de Bourges ou ce genre de choses, des groupes qui sont pas forcément très connus.
Ouais, si tu grattes un peu ces choses là, tu t'apercevras que c'est toujours des groupes qui sont en deal avec soit des maisons d'édition. Il y a déjà une espèce de mini structure derrière où des gens qui pousse un peu le truc et qui fait que ces groupes-là, ils sont déjà un pied dans le professionnel. On n'est pas sur un tremplin à côté de chez toi où il y a des groupes qui passent, qui sont pris parce que leur son est pas mal. On est plutôt dans un truc où ils sont déjà plus que de la voie de développement, ils sont déjà en voie de professionnalisation. Ça, faut gratter un peu pour voir les trucs avec qui ils sont en deal, mais tu t'aperçois qu'il y a des structures derrière, tu t'aperçois qu'il y a des choses comme ça. Donc ça n'empêche pas de postuler chaque année, ça n'empêche pas de se faire jeter chaque année, mais effectivement.
S'il y a des festivals qui nous entendent, Bébli, en tout cas, ça t'intéresserait bien. Et puis voilà, ça
peut être.
Non, mais c'est clair. Après, là, pour l'instant, c'est vrai que 2020, je pense qu'il va pas y avoir de concert pour cette année, ou du moins vraiment peut-être fin d'année et encore. L'année 2021 sera peut-être plus riche en possibilités.
C'est ça. Surtout qu'apparemment, le Hellfest fait deux Hellfest.
Ah ouais, il va en faire deux dans l'année.
Non, j'ai lu ça tout à l'heure sur un truc. Ça m'a fait bien marrer. J'ai dit, oh, ils vont être culottés. Je sens qu'ils vont être culottés.
Ah, j'ai ouï dire qu'ils allaient pas avoir d'assurance annulation, je crois. Enfin, l'assureur a fait oui, mais non. Et donc, je crois qu'ils vont à annulation sans remboursement par l'assurance.
D'accord, merde.
Je crois que c'est pas une bêtise que je dis là. J'avais cru voir ça et je me dis, ouais, sur un budget comme le Hellfest, bon après ils ont pas de problème de trésorerie hein, mais voilà, c'est compliqué.
Je crois que tout est compliqué dans la culture en ce moment.
Oui, bah j'espère surtout que les festivals vont pouvoir survivre jusqu'à l'année prochaine, parce qu'après en fait tu fais tourner des équipes le reste du temps pour assurer la promotion, gérer les artistes, prendre les assurances, les structures, etc. Et là en gros ils vont tourner à vide pendant un équivalent de 2 ans, donc c'est long, c'est très long.
Ah, c'est hyper long psychologiquement. En plus ça risque d'être un peu compliqué pour eux quand c'est le seul truc que tu fais, tu prépares un festival sur une année avec une équipe d'une dizaine de personnes et que le festival festival a lieu, wow, tu as une sensation de vertige.
Ouais, bah c'est ça, c'est ton bébé, c'est le truc sur lequel tu as bossé des fois des nuits et des jours pour au final que ça se passe pas. Bon, d'un autre côté, ça ne pouvait pas se passer dans ces conditions. Je vois mal un festi où on aurait tous et tous à 2-3 mètres les uns des autres avec des cercles sur le sol pour nous espacer. Voilà, c'était ouais. Juste pas possible.
C'est un peu comme les live Facebook, ça a pas trop de sens.
Alors, apparemment, il y aura pas de live Facebook pour Bébé. Je crois que à moins que tu changes vraiment radicalement d'idée dans 2-3 mois.
Il y a que les couillons qui changent pas d'avis, mais bon.
Après, donc pour revenir aussi un petit peu à Bébé, est-ce que vous avez des futurs projets ou des collabs de prévus dans les prochains mois?
Bah, pour l'instant, non, parce qu'on veut défendre ce disque là. Donc, pour l'instant, comme il est tout frais, on a mis 2 ans à le faire et il faut qu'on arrive à trouver des trucs. Mais après, oui, on peut avoir plein d'idées, mais là, j'en ai pas de données concrètement, de vraiment bien mûri, mais toujours dans le même dynamisme, je pense.
Et en général, vous mettez combien de temps pour sortir un album?
Les EP, après, ça dépend, effectivement, en fonction des disponibilités de chacun. Bah là, tu vois, le dernier datait de fin 2017, celui-là est arrivé février 2020. Voilà, le temps d'enregistrer, le temps de préparer, avec des emplois du temps un peu chargés, mais tu vois, en gros, en 2-3 ans, on est sur un truc correct, quoi.
Donc en fait, vous vous laissez aussi le temps, vu que vous avez pas non plus de pression label, ou vous cherchez plutôt de la qualité à la quantité?
Oui, oui, c'est le but du jeu, les chansons qu'on enregistre, où on met un peu de sous pour enregistrer, on a envie qu'elles nous plaisent, quoi. Parce que si c'est pour enregistrer des trucs un peu pas trop réfléchis,
on fait regretter après, quoi.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir un peu réécouter le disque, même si en général, on n'aime pas trop réécouter, mais d'avoir un peu de plaisir à se dire, ah, c'était pas mal, quand même.
Bon, à part le batteur, là, qui s'est trop chauffé à un moment, là.
Ah, mais non, mais ça, c'est un répète, ça.
Ah ouais, ça va. Vous le gardez pas sur la version finale.
Ah bah non, là, on lui dit attention, hein, sinon, on va enlever nous-mêmes sur l'ordi.
Vous coupez la piste, c'est genre.
Tout... Non, on coupe la piste, ça ressemble à rien.
Énorme. Et après, tu rajoutes un truc, genre la boîte à rythme. Tu prends une petite boîte à rythme et tu le remplaces comme ça et tu fais, ouais, si, c'est toi qui as joué.
Ici, ça remettrait jamais.
Ah ouais, je pense qu'il aurait mauvaise. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin?
Un petit mot pour la fin, et ben, déjà, un gros merci à toi pour cette entrevue, c'était super cool. Et puis, merci de mettre un peu le focus sur nous, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent à notre projet.
Comme je disais, votre chanson m'avait bien plu, puis j'avais écouté un peu le reste de ce que vous faisiez, c'était sympa. C'est en tout cas, en plus, on était dans la grille de programmation de Radio Pulse avec le facteur chance, on l'a déjà passé. Donc voilà.
C'est cool.
Et ben, en tout cas, un grand merci à toi pour cette interview, parce que ben, nous aussi, ça faisait grave plaisir de te recevoir. C'était Bébé pour Radio Pulse, passe une excellente journée.
Salut.
Salut.